Critique par le père Philippe à Saint-Jodar, le 22 mars 90.
Premier moment de réflexion critique, c'est donc constater la diversité de nos connaissances et comprendre qu'il y a une distinction fondamentale. Essayer de redécouvrir d'un point de vue critique qu'il y a dans nos connaissances une orientation pratique et une orientation de la recherche de la philosophie, de la vérité pour elle-même. Ça très important parce que la démarche dialectique est une, ça n'existe plus dans la démarche dialectique. Alors, faut chercher pourquoi ça n'existe plus dans la démarche dialectique et pourquoi nous maintenons ça. Vous comprenez très bien, je maintiens au plan philosophique connaissance spéculative, connaissance pratique, connaissance intellectuelle, spéculative, non pas parce qu'Aristote le dit, mais parce que ça s'impose à moi comme une réalité. Au point de départ, vous croyez en ce qu'on vous dit et vous l'acceptez. Oui, c'est vrai, connaissance spéculative, connaissance pratique, vous serez très bien. Alors, Aristote l'a dit, c'est très bien. Saint Thomas le reprend, c'est très très bien. Et en dialectique, dans une pensée dialectique, hegelienne, cette distinction disparaît. Dans le marxisme, cette distinction disparaît. Il y a eu ce petit fait. 10 ans après la guerre, Lefebvre, qui était marxiste, qui enseignait, a voulu faire un livre sur la situation du marxisme 10 ans après la guerre. Donc à ce moment-là, il s'est mis au-delà des dialectiques pour juger de la situation du marxisme après la guerre en France. À ce moment-là, une attitude spéculative distincte du point de vue pratique. Et on l'a rayé du parti. Parce qu'au fond, il réintroduisait une connaissance spéculative à l'intérieur du point de vue proprement démarche dialectique. C'est très significatif. Il n'y a pas de distinction dans la dialectique entre connaissance spéculative et connaissance pratique. Alors, je me trouve devant ce fait, et je crois qu'au point de vue critique, c'est la première distinction que je dois justifier. Est-ce légitime de garder cette distinction face à la dialectique? Ou est-ce que la dialectique représente un progrès qu'Aristote n'avait pas vu? Comme je suis dans l'évolution, cuisine, mais on me demande de bien faire la cuisine. Pas empoisonner la communauté. Parce que c'est embêtant de m'empoisonner. Et puis, je cherche en métaphysique la vérité pour elle-même. Et je dis, la métaphysique, ça ne me sert à rien du tout. C'est pas utile du tout. C'est pas pratique du tout, la métaphysique. Ce qui est vrai, c'est pas pratique du tout. Mais, donc, si c'est pas pratique, ça ne sert à rien. Donc, si ça ne sert à rien, supplément ça, c'est de la vieillerie. C'est bon pour les enfants. Comme dit Auguste Comte. C'est les enfants qui cherchent la vérité. C'est un petit jeu d'enfant. Donc, il s'agit de bosser, d'être dans l'efficacité et dans le point de vue pratique. Et au fond, quand l'efficacité est première, tout est ordonné à l'efficacité. En effet, dans mes connaissances, j'ai des moments où je recherche la vérité, des moments où je réalise une œuvre. La cuisine, on réalise une œuvre. Il faut que le repas soit fait pour telle heure. Et il faut qu'il soit mangeable, et beau et agréable à voir. Ça éveille de façon prodigieuse l'appétit. Ou bien au contraire, l'acte d'obéissance. Obéir, ce sera bien moins efficace. Donc c'est plus l'efficacité qui commande l'obéissance. Et puis c'est pas une vérité en soi. Morale. Mais préparer le repas, obéir et faire de la métaphysique. L'intelligence est présente dans ces trois opérations, mais très différemment. Alors comment justifier ça? Bien, je justifie ça en raison que mon intelligence est ordonnée au réel, à ce qui est. L'intelligence est faite pour atteindre le réel. Jugement d'existence, ceci est. Je peux étudier ce réel pour lui-même le connaître. Il faut savoir ce qu'il est. Je veux savoir ce qu'est l'homme. Et là, je ne m'occupe que d'une seule chose. C'est cette réalité qui est présente à moi, que je veux connaître, que je veux analyser. Et quand je veux analyser, je veux que mon analyse soit vraie. Et la vérité s'impose à moi comme quelque chose qui est la qualité de mon intelligence. Mais je suis aussi responsable de mes activités. J'ai acquis une prudence où je domine mes activités. C'est pas du tout la même chose. C'est pour moi. Je ne juge pas de la prudence de mon voisin. Tandis que je peux connaître que mon voisin, c'est un homme. Donc c'est tout à fait différent. La prudence est une connaissance pour moi, pour déterminer mon activité. Et puis, je vois que je peux réaliser quelque chose et transformer une matière. J'ai trois expériences différentes, irréductibles, ayant leur exigence propre. Je réfléchis, comment ça se fait ça? Pourquoi ça? C'est parce que mon intelligence est une intelligence qui, pour connaître, passe par les sens et implique une abstraction. Mon intelligence est abstractive. Et l'abstraction fait que je ne suis plus en présence de la réalité telle qu'elle est. Dès que je la connais, je la transforme. Cette réalité transformée, c'est mon vécu intellectuel. Et ce vécu intellectuel reste dans l'intentionnalité. Je peux connaître ce réel, mais je le connais partiellement. Je le connais successivement. Par le fait même, ce que je connais n'est plus directement la réalité sur laquelle je peux agir. Pour rejoindre le réel concret, il faut l'aimer. Et alors intervient l'amour, qui permet à ce moment-là d'organiser ma vie, et qui me permet aussi d'agir. Je vois donc que mon intelligence, à cause de l'abstraction, ne peut plus se développer dans un seul sens, et qu'elle a besoin de l'amour. Pour me permettre d'agir. Je ne peux pas agir sans amour. C'est l'amour qui me permet d'être efficace. Ou l'amour direct, ou l'amour indirect. Parce que je veux réaliser une œuvre. tout ça repose sur le fait que mon intelligence est une intelligence abstraite. Je vois donc que c'est l'abstraction qui fait que mon intelligence, par rapport au réel, ne peut pas l'atteindre d'une seule manière. Donc ça, premier problème critique, je constate tout simplement que mon intelligence est une intelligence abstractive. Je chercherai après ce que c'est que l'abstraction, mais je la constate maintenant. Et je vois que c'est en raison de l'abstraction, connaissant l'universel, que je ne peux pas rejoindre le réel tel qu'il est, mon réel, moi qui suis dans telle ou telle circonstance, qui suis dans le monde, pour agir sur ce monde et pour agir sur le prochain. Oui, constatation, ça c'est très important. Parce que la connaissance est abstraite. Et donc, si je veux respecter le réel de ma connaissance, je suis obligé d'admettre que je n'atteins pas le réel d'une seule façon. Je l'atteins de diverses manières. Alors, comment se fait-il que je vois naître ce désir d'uniformité dans une pensée dialectique hegelienne? C'est parce que c'est abstrait. Comment se fait-il qu'il y a le désir d'uniformité? Comment ça peut se faire? Comment naît la dialectique? Bien, la dialectique veut l'universel et le singulier s'embrassent, s'unissent. C'est toujours ça qui commande la dialectique. Oui, j'ai constaté que la connaissance du singulier et la connaissance de l'universel sont distinctes. Parce que j'ai une connaissance abstractive. Mais si maintenant, je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité? N'y a-t-il pas possibilité, au fond, de faire que l'universel, qui part du singulier, implique le singulier, unir les deux dans ma propre connaissance? On ne peut pas nier que c'est une des grandes intentions de la dialectique hegelienne, d'avoir une idée universelle, singulière. Et donc, de ne plus regarder l'abstraction et de regarder la vitalité de l'intelligence. Je ne regarde plus ce que l'intelligence saisit, mais la manière dont elle le saisit. Et je dis, l'intelligence peut, dans son développement propre, passer de la connaissance universelle à la connaissance singulière. Dans une démarche qui lui soit propre. Et je verrai cette connaissance dialectique qui s'est développée. Alors comment puis-je, au point de vue critique, refuser cette position? Je refuse cette position au plan critique parce que la connaissance, c'est toujours pour connaître l'homme. Ma philosophie, c'est pour connaître l'homme tel qu'il est. Par la dialectique, je connais mon conditionnement intellectuel. Et ce n'est que ce conditionnement intellectuel que je saisis. Ça ne m'intéresse plus de connaître autre chose. Donc, il y a le rejet de l'aspect objectif de la connaissance. Mon intelligence est plus faite pour l'être. Mon intelligence est faite pour posséder l'être dans son développement propre. Ce n'est donc plus cette recherche de la vérité. C'est le désir de dominer. Et dominer l'emporte sur tout le reste. Alors, je ne peux pas accepter cette position si je veux connaître le réel, l'homme tel qu'il m'est donné. C'est bien cette recherche de la vérité qui m'empêche d'accepter la dialectique et qui m'oblige de reconnaître qu'il y a en moi diversité de connaissances. Je crois que c'est la première chose au plan critique. Je peux prendre un autre raisonnement. Alors, au plan critique, on peut avoir divers raisonnements. C'est pas gênant, ça. Je peux voir qu'au fond, toute la dialectique hegelienne repose sur le fait de dépasser la loi de contradiction, l'axiome de contradiction. Et qu'en dépassant cette loi de contradiction, je ne suis plus en contact avec la réalité existante, ce qui est. Comment Hegel dépasse-t-il la contradiction? En voyant que c'est mon intelligence qui est capable d'affirmer ceci est, ceci n'est pas. Si mon intelligence est capable d'affirmer ceci est ou ceci n'est pas, mon intelligence est donc au-delà de la contradiction. Alors je précise tout de suite, cet au-delà de la contradiction provient de la vie de mon intelligence, de l'exercice vital de mon intelligence, mais ne provient pas de la réalité affirmée. Si je regarde la réalité affirmée, j'accepte la contradiction, je reconnais qu'il y a un axiome de contradiction. Si au contraire, je ne veux pas reconnaître ce qui est affirmé et ce qui est nié, mais simplement la manière dont j'affirme et la manière dont je nie, à ce moment-là, je vois qu'au-delà de ces deux manières, il y a l'exercice même de mon intelligence. Alors ce n'est plus le contenu de mon acte de connaissance qui m'intéresse, mais l'exercice de mon intelligence, l'exercice vital de mon intelligence, son immanence. Et je vois que si, en effet, je me place dans cet dépassement de l'action de contradiction, j'aboutis nécessairement à dire que l'être est ordonné au devenir. Et je n'accepte plus la distinction de l'être et du devenir. Si, au contraire, j'accepte la distinction de l'être et du devenir, je suis obligé de reconnaître que ma manière de connaître est distincte de ce que je connais. Je reconnais qu'il y a un devenir intellectuel, comme il y a un devenir dans le monde physique. Mais que le devenir intellectuel est ordonné à la connaissance de la réalité. Le devenir de mon intelligence, ce devenir vital de mon intelligence, est ordonné à quelque chose de plus profond que ce devenir vital, la réalité que je veux connaître. Et je découvre que ce qui est antérieur dans l'ordre de la perfection à ce qui devient. Et que ce qui devient est premier dans l'ordre du devenir, dans l'ordre génétique, mais n'est pas premier dans l'ordre de perfection. Je vois donc que la dialectique n'est possible que dans la mesure où j'ai compris, dans la mesure où je mets l'être ordonné au devenir. maintient que ma connaissance est faite pour atteindre la réalité. Mon affirmation et ma négation sont deux modalités pour moi d'atteindre ce réel qui s'impose à moi. Mais ma connaissance dépasse au-delà de ce qui est ou de ce qui n'est pas. La connaissance doit respecter cette distinction fondamentale de ce qui est. Parce que ce que je cherche, c'est de connaître le réel et non pas connaître ma manière de connaître. Comme si ma manière de connaître était supérieure à ce qui était connu. Je touche donc là cette inversion terrible qui existe dans l'hégélianisme. À la place de rechercher la connaissance pour elle-même par rapport à la réalité que je connais. Je m'intéresse uniquement à la manière dont j'assimile la réalité, à la manière dont je la connais. Donc, je me replie sur le sujet connaissant et non plus sur ce qui est connu. Mais c'est plus complexe, mais ça aboutit au même résultat. Voyez, première affirmation, justifier la distinction entre la connaissance spéculative et la connaissance pratique. Ceci face à l'hégélianisme, puisque je fais de la philosophie face à l'hégélianisme. Je suis tout à fait d'accord là avec ce que dit le professeur Bourgeois, c'est que l'hégélianisme est pour moi, dans cette fin du XXe siècle, la philosophie la plus pénétrante par rapport à tous les autres. Et donc, c'est elle que je dois regarder en premier lieu, au plan critique, pour comprendre que le génie hégélien ne me fait pas comprendre la distinction entre connaissance spéculative et connaissance pratique. Et je dois au contraire rétablir cette distinction. Et en faisant ça, je maintiens le réalisme de ma connaissance. Est-ce que vous comprenez ça? Je crois que c'est la première, c'est le premier problème. Vous voyez, c'est le premier problème critique face à Hegel. S'il y a des difficultés, dites-le. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, comprenez au moins que face à l'hégélianisme, qui est une connaissance uniforme dans la dialectique, je dois maintenir que mon intelligence se développe de diverses manières et pas d'une seule manière. Voyez, la réalité de la diversité des connaissances scientifiques, de l'éthique, de l'art, il faut légitimer cette diversité et montrer que cette diversité est normale pour une intelligence qui veut connaître la réalité existante, l'homme. Ah oui, mais c'est une autre manière, ça c'est autre chose, que l'abstraction demeure jusque dans l'amour, c'est très vrai. Pourquoi l'amour est-il intentionnel? C'est parce qu'il y a un mode abstrait. Je ne peux pas aimer sans connaître. Vous voyez, non, j'ai légitimé, c'est légitime, mais ça c'est un autre problème. On reviendra là-dessus après. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'il y a diverses manières de connaître. Il y a une connaissance affective qui n'est pas la connaissance spéculative. Et il y a une connaissance artistique qui n'est pas la connaissance affective. Maintenir ces trois types de connaissances, ça me semble capital. Oui.
Est-ce que la peine de la finalité est antérieure à la naissance de la dialectique? Est-ce que c'est un effet?
Que vous dites?
La perte de la finalité.
Oui.
Est-ce qu'elle est antérieure à la naissance de la dialectique ou est-ce que c'est un effet?
C'est un effet. Parce que quelle est la finalité de la connaissance? C'est la vérité. Si vous ne recherchez plus la vérité, vous vous repliez sur vous-même et vous tombez dans la dialectique. Et ça, je le dirai au terme, vous comprenez? Ici, je constate, je suis en face de la philosophie hegelienne. Est-ce laquelle je choisis? Je choisis Aristote et non pas Hegel. Mais je ne choisis Aristote pas par amour pour Aristote, mais par amour pour la vérité. Et je vois que le choix d'Aristote face à Platon est analogue au choix de moi-même face à Hegel. C'est ça qui m'intéresse, au point de vue critique. Et que je maintiens la distinction spéculative et pratique. Oui.
Est-ce que l'uniformité de la connaissance dialectique ne provient pas du fait que l'intelligence est liée au sensible comme l'on dit ?
Oui, ça vous pouvez chercher. Oui, je prends. Faisons attention. Hein. On critique un point. On ne va pas tout critiquer. Je ne vais pas faire la connaissance dialectique maintenant. Je verrai ensuite, au terme de ma critique, qu'il y a au fond deux manières de connaître, au plan philosophique. Une manière analogique et une manière dialectique. Là, je parlerai des sensibles communs, des sensibles propres. Mais pas tout de suite. Ici, je prends un seul point. Est-ce que cette distinction spéculative et pratique est-elle légitime? Vous voyez, c'est uniquement ça. Parce que ça, c'est déjà, vous voyez, c'est au terme, ça. Au terme, je dirais, la connaissance dialectique est une connaissance qui n'atteint pas le réel parfaitement. Je l'ai déjà dit quand je dis que c'est une connaissance réflexive, donc qui reste dans l'intentionnalité. Autrement dit, si vous voulez, je pourrais dire ceci, une connaissance réflexive sur mon intentionnalité ne peut plus atteindre la vérité. Et donc, elle reste dans le conditionnement. Si au contraire, je constate que mon intelligence est faite pour atteindre la vérité, cette intelligence n'est vraie que quand elle est conforme au réel. Oui, ce serait une troisième piste, si vous voulez. Vous m'en tenez beaucoup. Hein. Oui.
L'établissement de distinction, est-ce que c'est au niveau de la manière de connaître ou est-ce qu'il y a un lien de nécessité avec...
Ah, c'est ma manière de connaître. Les anges ne connaissent pas comme ça. Si les anges existent, philosophiquement parlant, Dieu ne connaît pas comme ça. C'est ma condition d'homme intelligent. Ma condition d'homme intelligent, c'est de constater que de fait, je connais selon un mode abstrait. La connaissance intellectuelle est abstraite. Ce mode d'abstraction ne supprime pas ma capacité de connaître le réel. On le verra quand on verra ce que c'est que l'abstraction. Et si je le constate tout de suite, pourquoi la distinction du spéculatif et du pratique? Dois-je maintenir cette distinction pour la maintenir? Je crois que c'est tout de suite ça. Puisque l'hégélianisme est en face. Vous voyez ? C'est une distinction capitale, cette distinction. Je pourrais la mettre après, mais vous voyez, au plan critique, elle s'impose tout de suite à moi. Elle s'impose tout de suite. suivre, parce que vous allez voir maintenant le second moment, hein. Si j'accepte cette distinction, je vais maintenant tout de suite me poser la question. Sur quel point va se porter la critique? Puisque j'ai une, deux, trois. Hein. La connaissance spéculative qui se porte sur la vérité, la connaissance pratique qui se porte sur l'œuvre, l'opération. Alors, prenez l'obéissance pour regarder le petit exemple qu'on avait dit tout à l'heure. Et puis l'œuvre, réaliser une cuisine potable.
Alors, dois-je commencer? Vous voyez,
tout de suite. Troisième point. Troisième interrogation. Dois-je commencer par la critique de l'expérience, interne ou externe? Ou dois-je commencer par la connaissance en elle-même? Connaissance spéculative, la connaissance intellectuelle. Ça, c'est une question très importante. Si je suis cartésien, voyez, Hegel, Descartes, c'est curieux. Si je suis cartésien, je vais commencer par critiquer l'expérience. C'est ce qu'a fait Descartes. Oui, l'erreur de Descartes, ça a été de vouloir critiquer l'expérience en premier lieu. Est-ce que c'est l'expérience que je peux critiquer en premier lieu? Descartes a considéré que l'expérience n'était pas tout à fait sûre. On peut se tromper. Je suis albinos, moi. Quand c'est rouge, c'est bleu. Quand c'est bleu, c'est rouge. Donc je me trompe. Je mets ma main dans l'eau. Tiens, elle est courbée. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est cassée. Ah, je la retire tout de suite. Non, elle est bien. Alors, il faut critiquer l'expérience en premier lieu pour chercher où la connaissance est vraiment certaine. Eh bien, j'ai dit non, ne commençons pas par l'expérience, parce que l'expérience est une connaissance complexe. Je cherche toujours qu'est-ce qu'il y a de plus simple. Je ne dis pas ce qu'il y a de plus certain, ce qu'il y a de plus simple. Donc je ne peux pas commencer par l'expérience. Je critiquerai l'expérience, ne vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas ça que je regarderai. Je regarde la connaissance intellectuelle du cogito. Je pense. Quand je pense, je suis au-dessus de ma connaissance expérimentale. Et donc, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la connaissance intellectuelle. Comment elle s'impose à moi. Au-delà de la connaissance sensible. Ce n'est pas nécessairement la connaissance des principes. C'est la connaissance tout simplement intellectuelle. Ce n'est pas nécessairement une démonstration. C'est la connaissance intellectuelle. Dans ce cas-là de plus simple, je pense. Je réfléchis. Cogito, je cogite. Vous voyez comment tout de suite je pars. Troisième problème. Qu'est-ce la connaissance intellectuelle? Mais comment j'aboutis? Toujours par ce souci de trouver ce qu'il y a de plus simple. J'aboutis à la recherche de qu'est-ce que c'est que la connaissance intellectuelle.